Un chrétien peut-il se soigner en utilisant la sophrologie? Un chrétien peut-il jouer au jeu de rôle? Un chrétien peut-il écouter du hard rock? Ce sont des questions qui sont parfois posées au pasteur que je suis et qui ne sait pas toujours répondre. Le pasteur essaye de connaître la Bible, c'est déjà tout un programme. Alors, je ne parle pas de toutes ces et la Bible ne parle pas de toutes ces pratiques, de choses qui lui sont postérieures, de choses qui sont arrivées après. Alors, on essaye de faire comme on peut, on se documente, on essaye de comprendre. Mais finalement, un jour où on m'a posé une de ces questions, j'ai pensé à ce texte de la Bible que j'aimerais partager avec vous ce matin. C'est dans l'évangile de Luc, au chapitre 11. C'est un texte court, dans l'évangile de Luc, au chapitre 11, à partir du verset 24. Luc 11, verset 24, c'est Jésus qui parle et voici ce qu'il dit. Lorsque l'esprit impur est sorti de l'être humain, il passe par des lieux arides, cherche du repos et, comme il n'en trouve pas, il se dit « Je vais retourner dans ma maison, celle d'où je suis sorti. » Quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors il s'en va chercher sept autres esprits plus mauvais que lui. Ils entrent là et s'installent. Et la condition dernière de cet homme-là est pire que la première. Voilà pour notre lecture. De quoi parle ce texte ? Ce texte parle d'esprits impurs et d'esprits mauvais. Des esprits qui viennent habiter dans des personnes, dans des êtres humains, des démons qui viennent influencer leur comportement. Voilà quelque chose auquel nous sommes peu habitués dans notre monde, dans notre vie quotidienne. Le lecteur de la Bible connaît cela. Les évangiles nous indiquent que Jésus a chassé beaucoup d'esprits mauvais, beaucoup d'esprits impurs. Et quand il envoie ses disciples devant lui, quand il les envoie en mission, il leur demande de chasser les esprits. Mais dans notre monde, au XXIe siècle, les esprits comme ça, ce n'est pas quelque chose qui correspond à notre expérience, qui correspond à ce qu'on connaît dans notre vie quotidienne. Et on touche là à quelque chose qui dérange notre compréhension, qui dérange notre intelligence, notre façon de voir le monde. Les ados qui étaient au petit déjeuner théologique le mois dernier s'en souviennent peut-être, enfin j'en vois pas beaucoup ce matin ici, mais on a parlé de Jésus dans l'histoire. Et pour les historiens, il y a peu de doute aujourd'hui, Jésus a existé. Les documents qui parlent de lui sont nombreux, autant dans la Bible qu'à l'extérieur de la Bible. Il y a des manuscrits de qualité, avec une distance près des événements qu'il relate très proche. Jésus a existé. Mais la question que se posent les historiens, c'est comment était Jésus ? C'est difficile de croire tout ce qu'il y a dans les évangiles. Alors, ils se disent que les chrétiens, ceux qui ont écrit les évangiles, ont dû enjoliver tout cela. Et ils partent à la recherche du vrai Jésus, du Jésus historique, du Jésus qui a vraiment existé. Cette recherche, elle a commencé à partir du XVIIIe siècle, le siècle des Lumières. On s'est mis à ne plus croire tout ce qu'on nous disait et les théologiens ont cherché à découvrir le vrai Jésus, à travers ce qu'ils avaient, à travers la Bible. Ils ont cherché à faire le tri dans la Bible. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est exagéré? Par exemple, quand on prend le baptême de Jésus, la colombe qui descend du ciel, ça c'est certainement ajouté. Le baptême, c'est vrai, mais la colombe, c'est certainement ajouté. Voilà ce que le genre de tri que font ces théologiens. Et chacun va faire son tri, qui n'est pas toujours le même. Et chacun arrive à un Jésus qui est, selon lui, le Jésus qui a vraiment existé. On dit qu'on cherche à démythologiser Jésus. Et dans ce cadre, avec cette démarche, les esprits impurs, c'est un mythe. C'est comme ça que les gens, à l'époque de Jésus, expliquaient certaines maladies, expliquaient certains troubles psychiques ou mentaux. Et il y a certains passages dans la Bible, dans les évangiles, qui nous questionnent dans ce sens. À un moment, il y a Jésus qui va guérir un enfant qui souffre d'épilepsie. C'est quand on lit la description qui est faite de sa maladie, on reconnaît l'épilepsie. Mais quand Jésus le guérit, il dit qu'il a, et ses disciples disent qu'il a chassé un esprit qui habitait cet enfant. Donc, les esprits sont-ils des maladies, des choses comme ça? D'autres passages de la Bible ne vont pas du tout dans ce sens. D'autres sont plus troublants. Et on voit en particulier dans Marc 5, Jésus qui parle avec un démon. Un démon qui habite un homme et qui questionne Jésus et qui lui demande la permission d'aller ailleurs s'il est chassé de cet homme. D'aller dans ce troupeau de porcs qui est là-bas. Jésus l'y autorise et les gens témoins de la scène voient les porcs courir et se jeter du haut de la falaise. Et avec des récits comme ça, c'est difficile de suivre ces théologiens qui cherchent à démythologiser, dire que les esprits n'existent pas. Quand on a des témoignages comme ça, soit la Bible ment, soit les esprits existent réellement. Ce que la Bible nous dit, c'est qu'il y a des forces invisibles qui existent dans ce monde. Des forces, des esprits qui influencent et qui cherchent à prendre le contrôle. Alanisius les décrit comme des êtres personnels, c'est-à-dire de vraies personnes, des êtres personnels actifs, possédant une existence objective et indépendante de notre pensée. Et on le retrouve dans ce texte. Dans ce texte, Jésus décrit un esprit qui passe dans le désert, qui cherche du repos, qui n'en trouve pas, qui réfléchit, qui se dit et qui va chercher d'autres esprits. Jésus nous décrit quelqu'un qui a un objectif. Et cet objectif, c'est une volonté de nuire. Quand cet esprit est envoyé dans le désert, ma foi, il pourrait prendre un peu de repos, s'y reposer, mais il ne trouve pas de repos là-bas. Ce qu'il veut, ce qu'il cherche, ce n'est pas la tranquillité, se la couler douce. Ce qu'il cherche, c'est tourmenter une personne. Voilà ce qui est bien. Et cet esprit, il n'est pas égoïste. Parce que quand il y a de la place, il va en chercher d'autres. Il va en chercher d'autres et des pires que lui. Son objectif, ce n'est pas de jouir tranquillement de la personne qu'il tourmente. Non, son objectif, c'est de la tourmenter un maximum. Et s'il faut se faire aider, eh bien, il se fera aider. Ce que la Bible nous apprend, est-ce que confirme cet enseignement de Jésus, c'est qu'il existe des esprits, des forces invisibles qui cherchent à influencer l'homme et à la maintenir dans le péché. Mais pourquoi ? Pourquoi Jésus donne-t-il cet enseignement à ce moment-là ? Pourquoi parle-t-il d'esprits qui entrent et qui sortent à ce moment-là de son ministère ? Jésus est à un moment polémique de son ministère, un moment où il est remis en question, un moment où il est critiqué, attaqué. Comme nous l'avons dit, Jésus a chassé beaucoup d'esprits mauvais pendant qu'il était sur terre. Et à ce moment, certains le questionnent, mais qui il est ? Pourquoi est-ce qu'il agit ainsi ? De quelle autorité ? Et certains disent que c'est parce qu'il est lui-même lui-même avec l'autorité des esprits mauvais, l'autorité du diable. Juste avant ce passage, on le questionne sur l'autorité avec laquelle il chasse les démons. Et certains, parmi les témoins, disaient, c'est en Luc 11, au verset 15, « C'est pas le pouvoir de Béelzébul, le chef des démons, qu'il chasse les démons. » Alors, Jésus répond à ça. Jésus répond d'abord que c'est pas possible. S'il y a des forces en présence, avec des forces du mal qui cherchent à tourmenter les hommes, si ces forces du mal se divisent pour que l'une d'entre elles chasse les autres, elles ne vont pas avancer. Donc, Jésus ne chasse pas les démons par le pouvoir des démons. Ce serait une division dans ce domaine. Non, c'est par le pouvoir de Dieu qu'il chasse les démons. Mais Jésus contre-attaque également. Et c'est là le texte que nous avons lu. Il ne fait pas que se défendre, il contre-attaque. Et qu'est-ce qu'il dit dans ces trois versets ? Ces trois versets parlent d'esprit, mais ils parlent aussi d'hommes. Et c'est à des hommes que Jésus s'adresse, aux hommes qui sont autour de lui, aux hommes qui se demandent s'il faut le suivre ou pas, si c'est quelqu'un digne de confiance ou juste quelqu'un qui fait des tours, hein, quelqu'un qui a un grand pouvoir mais qui finalement n'est pas d'un intérêt sur le long terme. Et l'important dans cet enseignement, ce n'est pas ce qu'il dit sur les esprits qui vont et qui viennent, qui sont chassés et qui reviennent. Ce qui est plus important, c'est ce qu'il dit sur l'homme qui est d'abord libéré, puis repossédé. Dans cet enseignement, il y a un homme qui était sous l'influence d'un esprit mauvais. Et si l'esprit mauvais sort, au verset 24, ce n'est pas de sa volonté, c'est pas les efforts de cet homme qui l'ont fait partir. S'il est sorti, c'est parce qu'il en a été libéré. Il est sorti de l'homme parce qu'il a été chassé, que ce soit par Jésus ou par un de ses disciples, voire même par un exorciste. On sait que d'autres personnes chassaient les démons à cette époque. Les disciples des pharisiens, par exemple, le faisaient. Mais dans cette histoire, l'homme ne fait rien. Après que l'esprit ait été chassé, l'homme ne fait rien, il reste tranquillement dans cet état. Et du coup, quand l'esprit revient, il trouve la place libre et se réinstalle tranquillement. Ce que Jésus dit dans cet enseignement, ce qu'il montre, c'est que le problème, c'est que l'homme a laissé la place libre. Face aux démons, face aux esprits, l'homme peut agir. Face aux choses, aux forces qui nous influencent, l'homme peut agir. Et la meilleure lutte, c'est de ne pas leur laisser de place. Et comment on peut ne pas leur laisser de place? Eh bien, Jésus en parle dans le texte. Enfin, non, Jésus n'en parle pas dans le texte, pardon. Jésus n'en parle pas dans le texte, mais on le sait de quoi il parle. Quand on lit l'Évangile, quand il lit ce qu'il dit avant, après, il parle de lui. Il parle du royaume de Dieu qu'il vient annoncer. C'est ça qu'il faut faire entrer en soi. C'est à ça qu'il faut donner toute la place et qu'ainsi il n'y ait plus de place pour les forces avec une mauvaise influence. Jésus contre-attaque donc, parce qu'il dit que si on ne se remplit pas de bonnes choses, on s'ouvre aux mauvaises choses. Il dit que si on n'accueille pas son enseignement, son exhortation à vivre le royaume de Dieu, eh bien, on s'ouvre à l'influence des esprits mauvais qui cherchent à nous emmener là où ils veulent. Voilà ce que dit Jésus. Il y a des choses que l'homme ne contrôle pas. Il existe des forces qui tentent de le maintenir dans le péché. Mais l'homme n'est pas impuissant devant ces forces. Et il a la responsabilité de ne pas les laisser entrer. Et la meilleure façon de ne pas les laisser entrer, c'est de ne pas leur laisser de place. Et de laisser toute la place au royaume de Dieu. Alors, quel enseignement pour nous aujourd'hui, pour nous chrétiens du 21e siècle? Le premier enseignement, certainement, c'est de nous rappeler que même si la science a fait des progrès phénoménaux, qu'elle nous explique plein de choses, qu'elle nous montre des choses invisibles à l'œil nu, des choses qu'on ne pouvait voir au temps de Jésus, qu'elle nous explique tout un tas de mécanismes psychiques, psychologiques, des phénomènes sociaux. Malgré toute cette explication qu'on peut avoir, il existe des forces invisibles, qui veulent nous maintenir dans le péché. Et en cela, quand on reconnaît cela, la question, est-ce qu'un chrétien peut faire ceci, peut faire cela, cette question est légitime. Il faut faire attention à quoi on s'ouvre. Il faut faire attention de ne pas s'exposer à de mauvaises choses. Il faut faire attention à ne pas accueillir d'esprits mauvais. Les esprits mauvais existent. Et je vous lis ce qu'écrit Pierre dans sa première épître. « Votre adversaire, le diable, rôde, comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Oui, les forces mauvaises existent. C'est la première chose à retenir. La deuxième chose à retenir, c'est le moyen de les écarter. Et le meilleur moyen de les écarter, c'est de ne pas leur laisser de place. Ne pas leur laisser de place en donnant toute la place au royaume de Dieu. Comment faire ça? Je veux dire, comment concrètement laisser toute cette place à Jésus? Ce n'est pas une question facile. C'est une question qui occupe toute la vie du chrétien finalement. Comment laisser la place à Jésus? Comment laisser de plus en plus de place? C'est la course dont parle l'apôtre Paul. La course qui dure toute la vie. L'effort qui dure toute la vie de laisser la place à Jésus. On insiste beaucoup dans les églises évangéliques dont nous faisons partie sur la conversion. Et on y insiste à juste titre. Il est important de prendre la décision de suivre Jésus. Il est important de déclarer un jour « je crois », que ce soit sans ambiguïté. C'est vraiment un point de départ pour construire sa vie. Mais ce n'est pas la fin. C'est pas la totalité. C'est un début. Et derrière, on s'engage sur la suite. Jésus nous a mis en garde là-dessus. Il dit, pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire, Seigneur, Seigneur. Il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. Il ne suffit pas de dire, je crois. Il faut agir comme tel. Alors que faire? Je disais, je n'ai pas une liste de choses à faire à vous proposer. Et en fait, Dieu a essayé la liste de choses à faire. Si vous lisez la Bible, il y a l'Ancien Testament, il est même plus grand que le Nouveau Testament. Il y a la loi dedans. Dieu a tout dit ce qu'il fallait faire. Mais ça n'a pas marché. La loi a prouvé une chose, c'est que l'homme n'est pas capable de la suivre. L'homme n'est pas capable de suivre une liste bête et méchante de choses à faire. Pourtant, il n'y a qu'à suivre, mais non. Alors Jésus est venu. Dieu a envoyé Jésus comme un témoignage vivant, comme un homme qui a montré le chemin, comme un homme qui a montré comment vivre selon l'esprit de la loi, comment vivre selon la volonté de Dieu, plutôt que d'essayer d'appliquer la loi à la lettre sans la comprendre. Et c'est de lui qu'il faut apprendre, mais il n'est plus là. Je veux dire, il n'est plus présent physiquement parmi nous. Et nous avons bien assez de notre vie pour étudier le témoignage qu'il nous a laissé. Je disais que je n'ai pas une liste de choses à faire à vous soumettre. J'ai quand même quelques piliers de la vie chrétienne à vous recommander. Le premier, c'est lire la Bible. Pas par devoir. C'est pas une nouvelle règle, parce que si c'était une nouvelle règle, ce serait raté. On vient de dire que les règles, l'homme n'arrive pas à les suivre. Nous n'arrivons pas à les suivre. Mais lire la Bible parce que on recherche ce témoignage de Jésus. On recherche ce qu'il faisait lorsqu'il vivait sur terre. La Bible parle de ce témoignage. C'est un élément essentiel pour comprendre la volonté de Dieu. Hier, il y avait un mariage dans notre église. Et on sait que dans un mariage, pour connaître son conjoint, il ne suffit pas d'avoir un long exposé de la part du conjoint de ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Et puis après, avec cet exposé, on peut construire sa vie dessus. Non, dans le mariage, on va parler sans cesse des mêmes sujets. Des mêmes sujets qui vont revenir et on va comprendre de mieux en mieux celui avec lequel on vit. C'est la même chose avec Jésus. C'est la même chose avec la volonté de Dieu. Il faut lire et relire les mêmes choses, pour qu'elle soit toujours présente à notre esprit, pour qu'elle nous accompagne, pour que nous puissions y penser et les méditer dans des situations différentes, pour que nous puissions voir des choses que nous n'avions pas vues, pour que nous puissions connaître Dieu, vraiment. Lire la Bible, c'est une première chose. Prier, c'en est une autre. Prier, parler à Dieu. Jésus priait. Il priait beaucoup. C'est une chose qu'on voit dans la Bible. Combien de temps il passait. Combien de temps il passait à prier. Il ne le faisait pas de façon ostentatoire. C'est quelque chose qu'il a critiqué. Il le faisait discrètement, mais ses disciples l'ont vu et l'ont remarqué. Et surtout, ils ont vu l'effet que ça avait sur lui. Ils ont vu que Jésus en avait besoin et que c'est ça qui soutenait son ministère sur terre. À tel point qu'ils sont allés le voir un jour pour lui demander « Apprends-nous. Apprends-nous à prier. » Pourtant, ils avaient une éducation juive. On leur avait appris à prier. Non, ce qu'ils voulaient, c'était que Jésus leur apprenne à prier. Apprends-nous comment toi, tu vis cela. On prête au réformateur Martin Luther cette phrase. Je commence chacune de mes journées par prier une heure. Et si j'ai beaucoup de travail, je prie 2 heures. Prier, c'est parler à Dieu. C'est se tourner vraiment vers Dieu. C'est formuler ce qu'on attend de sa part. Pas attendre quelque chose de flou, mais quelque chose qu'on désire réellement. C'est se soumettre à sa volonté de nous répondre ou non. C'est un mouvement essentiel pour placer notre confiance en lui. C'est arrêter d'agir juste, mais de s'attendre à lui, de se parler, de lui parler, de s'attendre à lui. Lire la Bible, prier. J'ajouterais également aller à l'église. C'est un peu facile pour le pasteur, ça fait celui qui prêche pour sa paroisse. Je devrais peut-être dire rechercher le contact avec d'autres chrétiens, se rassembler avec eux. Mais le mot « église » vient de ce mot « rassemblement », « rassembler » en grec. C'est le rassemblement des chrétiens, c'est là qu'ils se retrouvent. L'église n'est pas le seul lieu de rassemblement des chrétiens, mais pourquoi la bouder puisqu'elle est là et qu'elle le fait si bien? Dieu nous a demandé de vivre ensemble. Comment tenir si on est seul? Comment nous aimer les uns les autres si on est seul? Comment nous enseigner, transmettre l'enseignement de Jésus en étant seul? Pourquoi aller à l'église? Pas par devoir, mais parce que c'est un endroit qui est bon pour nous. J'ai envie de relire un extrait de ce que Olivier Randall a mis dans le bulletin du mois de juin. Voici ce qu'il nous écrivait. L'Église est l'endroit où la foi est crédible, où l'on peut la confesser sans être moqué ou jugé, où l'on peut affirmer sa compréhension de ce que les apôtres nous ont légué et discerner les fausses pistes que le monde nous offre. L'Église est l'endroit où le pardon de Dieu est proclamé et où sa grâce devient visible. L'Église est l'endroit où nous sommes confrontés aux exigences de Dieu à notre égard, et ce, avant qu'il soit trop tard pour changer de voie. L'Église est l'endroit où d'autres veillent sur nous, nous confrontent en cas de dérapage, nous offrent soutien, écoute et encouragement en cas de difficulté. Et surtout, l'Église est l'endroit où Jésus-Christ a promis d'être présent d'une manière toute particulière. Que faire ? Faire de la place au royaume de Dieu, ça prend toute une vie. Mais voilà déjà trois piliers qui peuvent nous occuper et nous apporter beaucoup de bénéfices. Au moment de conclure, que retenir ? Nous pouvons retenir qu'au milieu de notre monde moderne, notre monde incrédule, qui croit ce qu'il voit, qu'il croit ce qu'il comprend. Souvenons-nous qu'il y a des choses qui nous dépassent, un monde invisible, et dans ce monde invisible, un diable, le diable qui existe. Des forces qui cherchent à nous maintenir dans le péché. Dans son livre « Tactique du diable », C.S. Lewis parle de cette volonté de maintenir l'homme dans le péché. C'est un très bon livre, je vous recommande la lecture pour discerner la façon dont le diable veut nous écarter du royaume de Dieu. Et à cette question de pourquoi est-ce que aujourd'hui, à notre époque, on ne voit plus ces esprits mauvais agir. C.S. Lewis répond que c'est une stratégie du diable. Une stratégie de nous pousser dans le matérialisme et dans le scepticisme pour nous faire nous éloigner de Dieu. Mais derrière cette stratégie, le diable est toujours là, avec sa volonté méthodique et réfléchie de nous éloigner du royaume de Dieu. Pour résister à ces forces mauvaises, plutôt que d'essayer de les combattre, le meilleur moyen, ça reste encore de ne pas leur laisser de place et de donner toute la place à Jésus et au royaume de Dieu. Nous avons bien besoin de toute une vie pour avancer avec lui, pour nous approcher de ce qu'il veut, mais nous pouvons commencer par des choses simples. Lire la Bible, prier, retourner à l'église. Ce sont des choses simples qui prennent la place dans nos vies. Voici ce qu'écrit l'apôtre Jacques dans son épître. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen.